À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule ! Yeah.
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 et on est toujours en direct de la place Satonet pour plus de 7 heures de direct. Et on va continuer maintenant avec le pôle écologie. On a la chance d'avoir avec nous des personnes du collectif Antitourisme et du collectif Nina Lyon. Eh bien, merci et bonjour.
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 Eh bien, traditionnellement, pour commencer, est-ce que vous voudriez présenter vos collectifs ? D'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce que c'est ?
Collectif Nina Lyon.
Un petit problème de micro.
On a essayé de rage.
Alors je vais commencer en attendant qu'on règle le problème de micro. Donc moi je représente le collectif de l'Office de l'Antitourisme. Donc on s'était dit qu'on était un office en réaction à l'Office de Tourisme. Parce qu'en fait nous on cherche à produire une critique du tourisme, ce qui est assez surprenant pour beaucoup de gens qu'on rencontre, et une critique en fait qui est souvent inconnue et où il y a assez peu d'écrit d'ailleurs. Et donc notre collectif a été créé au milieu de l'été 2018 à la suite d'un week-end sur la critique du tourisme, justement, qui était organisé par une des personnes qui a fait partie après de notre collectif sur la ZAD de Roibon, où il se passait beaucoup de choses, beaucoup d'événements sur des week-ends entiers. Et à la suite de cet événement très prolifique en termes de discussion, on était un certain nombre à s'être rencontrés et à se rendre compte qu'on était pas mal de Grenoble autour, dont des personnes qui réfléchissent depuis longtemps sur ce sujet, comme Rodolphe Christin ou Henri Mora, qui avait été présent sur ce sujet de la ZAD de Roibon depuis un moment, qui avait écrit un livre dessus. Et du coup, on est revenu sur Grenoble avec l'intention d'organiser des débats publics. Et en fait, ça s'est emballé. On a fait plein de choses. On a donc des débats publics. On a produit un fanzine critique du tourisme dans lequel on a retranscrit en fait la richesse des discussions qu'il y avait eu pendant ce week-end-là.
Je crois que c'est un fanzine qu'on peut trouver sur la table à côté de la buvette.
Voilà. Et depuis, on a été pas des plus rapides pour sortir mes deux autres vues quand même, et qu'on va certainement continuer, et qu'on a appelé le guide de l'antitourisme. Donc il y en a eu un en hiver 2020 et un récemment en hiver 2022. Voilà. Donc l'essentiel de ce qu'on fait, c'est donc production de pensée, on va dire, intervention publique. Et aujourd'hui, il y a une volonté dans notre fanzine, notamment, de lier davantage la théorie à la pratique et aux luttes possibles. On le voit bien dans le dernier numéro, où on donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur notre territoire. Et donc, on est un office donc ancré sur un territoire. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais nous, du coup, on invite les gens à créer leur office localement là où ils sont.
Eh ben merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que cette lutte anti-tourisme, elle est aussi portée par le collectif Nina Lyon depuis longtemps, d'ailleurs.
Ouais. Alors, du coup, là, on est deux du collectif Nina Lyon. Donc, pour présenter ça un peu, c'est un collectif qui a été fondé en 2016, qui fait partie de la coordination Nina. Donc, c'est différents collectifs qui ont été créés pendant la lutte contre les center parks qui étaient en projet dans la région. Sachant qu'à l'époque il y en avait trois, donc un à Poligny dans le Jura, un au Rousset en Saône-et-Loire et un à Roibon en Isère, sachant que les trois projets ont été abandonnés, donc c'est des luttes qui ont quand même bien marché. Et donc le collectif de Lyon qui a été fondé en 2016, donc on a essayé de faire des choses à propos des center parks, donc à propos du tourisme, sur l'écologie radicale, des choses comme ça. Et vu qu'on s'est un peu diversifié après et qu'on a décidé de continuer à faire des choses après l'abandon des projets de Center Park, on existe encore. Et Ça nous arrive de faire des choses sur l'antimilitarisme, par exemple, dont on parlera plus tard dans l'après-midi. Voilà.
Et puis aussi, on a aussi travaillé sur la question de la métropole de Lyon. Donc c'était encore Gérard Collomb qui était son Führer. Et ça rejoint complètement les questions du tourisme et de touristification des villes, du monde. Puis on en avait profité, c'était juste avant le grand confinement, on avait organisé un carnaval sauvage dans Lyon, le jour de la fête des Lumières, qui avait été un grand succès.
En 2019.
En 2019, exactement, voilà. Et puis, on a aussi relayé les activités de nos camarades de Grenoble sur les questions du tourisme. Et on a organisé des débats, des rencontres, des machins, des bidules. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.
Et moi, j'ai juste une question, parce qu'on parle de territoire, et notamment, tu parlais justement d'office, etc. Est-ce qu'on peut repréciser un peu le bassin de lutte, on va dire, jusqu'où, sur quel... C'est entre Grenoble et Lyon, jusqu'à où? C'est quoi le territoire géographique de lutte là dont tu parlais justement?
C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses, même juste parler du tourisme, des aménagements qui se font juste à Grenoble, que en fait, nous, on peut dire qu'on est déjà débordé sur ces sujets-là. Par ailleurs, on s'est rencontrés à Roibon, donc c'est un peu éloigné de Grenoble. Mais moi, j'avais rencontré les gens de la Nina qui sont avec moi là aujourd'hui. En fait, c'est grâce à eux, grâce à leur collectif, qu'il y avait vraiment, il me semble, une dimension d'unir un petit peu les luttes et d'être solidaire des autres luttes avec un nom fort, ni ici ni ailleurs. Et donc, on n'est pas non plus étranger aux luttes des voisins, loin de là. Mais disons qu'on trouve que c'est plus pertinent, on connaît mieux le territoire dans lequel on vit. Et c'est moins énergivore aussi que d'avoir à se déplacer très loin pour des luttes où on n'y est pas. Voilà, donc c'était par souci de simplicité, d'être présent là où on vit en fait.
Ouais, c'était juste pour bien capter jusqu'où, quel était le territoire de lutte. Merci.
Et peut-être pour revenir, vous dites du coup que vous êtes des collectifs anti-tourisme, mais alors qu'est-ce que ça veut dire s'opposer au tourisme ? Peut-être contre toute forme de déplacement ? Est-ce que c'est des formes liées aux vacances ?
Alors, à l'Office de l'Antitourisme, on a des petites différences individuelles sur des petits points, mais on a quand même une grande ligne commune sur plusieurs choses. Je peux dire que... Alors déjà, le tourisme, c'est la première industrie au monde en termes de création de valeur dans le PIB et puis en termes d'emploi. Et donc... Mais pour nous, c'est une forme d'expansion actuelle du capitalisme, en fait. C'est un secteur industriel qui tire le capitalisme avec des taux de croissance assez élevés. Et en fait, donc à travers la marchandisation de tous les pans de notre vie depuis des dizaines et des dizaines d'années, y compris notre temps libre, parce que c'est ça, en fait, le tourisme, c'est l'organisation et la marchandisation d'un temps qui est libre hors travail. Eh ben, nous, en fait, on vise en réalité quelque chose de plus large que le tourisme. Donc, on a une critique du capitalisme. Et voilà. D'où, du coup, aussi une critique du travail, parce qu'en fait, pour nous, le temps du loisir et le temps du travail sont comme les deux faces d'une même pièce, et que c'est notre société s'organise comme ça. Alors que dans d'autres sociétés, ça pouvait être assez mêlé, en fait. Le travail pouvait être à la fois... ludique, le moment où on est créatif, où on explore des choses, et en même temps on pouvait croiser son voisin pendant qu'on travaillait dans le champ, discuter, etc. Donc on a aussi une critique du travail, en fait, et parce que c'est le travail, en fait, qui organise aussi le tourisme.
Est-ce que c'est un avis que vous partagez à la Nina Lyon?
Tout à fait, cher. Non, mais pour rebondir sans me prendre les pieds dans le tapis, effectivement, on est anti-touriste parce qu'on est anti-capitaliste et anti-étatique. Parce que c'est, comme l'a dit Jérémy, c'est le tourisme, c'est une des premières industries au niveau mondial, c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Il y a des travaux très sérieux qui ont été faits il y a 2-3 ans là-dessus. C'est... Il n'y a aucun industriel du tourisme, et on emploie le terme pas bon escient, c'est les industriels du tourisme, n'a contesté les chiffres qui étaient donnés. C'est-à-dire que c'est une industrie qui est dévastatrice à l'échelle de la planète. Elle est dévastatrice sur la nature, sur l'environnement, sur les modes de vie. Voilà, elle est comme le capitalisme dans lequel on vit actuellement. Donc elle est à combattre. Donc c'est, je pense, pour ça qu'on s'appelle anti-touriste. Mais ça ne nous empêche pas, il faut quand même le dire, de partir en vacances ou d'aller en week-end de temps en temps de ci, de là, cas un cas. Parce que de toute manière, le mode de vie qui est imposé fait qu'on n'y échappe pas, mais en même temps.
Et puis, oui, vas-y.
Non, je veux juste dire après sur un autre...
Si on l'entend, mais...
Après, sur un autre aspect, on peut aussi dire que le tourisme, c'est une... ça peut être considéré comme l'inverse du voyage. Enfin, le tourisme, c'est être un peu catapulté dans un coin où une industrie a tout aménagé pour toi, pour rendre tout accessible. Et certaines personnes diront que c'est pas vraiment du voyage, c'est pas vraiment aller dans des endroits où on découvre un territoire, on découvre des gens. Enfin, c'est autre chose.
Ouais, nous aussi, l'office de l'antitourisme, on tient à rappeler ça en fait, peut-être en partie, donc peut-être une différenciation entre le tourisme et le voyage. On est passé d'une conception du voyage qui était plutôt de la découverte. De la diversité, des cultures, etc., au tourisme qui est plus du divertissement. Et nous, notre axe, il est surtout aussi sur la dénonciation des politiques qui engendrent le tourisme. Parce que dans notre société, pour nous, hein, l'offre et le milieu qui est créé par le système, il génère la demande, il génère les comportements que nous avons. Et que finalement, le choix qui nous reste là-dedans influence assez à la marge le système. Donc on n'est pas anti-touriste, on est plutôt anti-tourisme, et donc plutôt les décisions qui organisent le tourisme, les gros moyens qui vont dans le sens de ce développement-là, et qui font que ça devient quelque chose d'évident, et qui en fait répond aussi à un certain besoin dans une société où on en manque d'air, par exemple. En fait, on a besoin d'aller chercher la nature quand elle est de plus en plus loin, et là, cette société-là nous organise ça. Voilà. Voilà, c'est déjà bien.
Est-ce que vous auriez un exemple du coup concret de ces politiques-là ou de ces industriels contre lesquels du coup on pourrait concrètement se mobiliser ?
Il y a déjà tous les offices de tourisme officiels. Enfin, par exemple, l'office de tourisme de Lyon, là, il a un nouveau président à sa tête, qui est l'ancien directeur de l'école de management de Lyon. J'ai oublié son nom. Et il est tout content d'expliquer qu'ils vont numériser la présence des touristes sur Lyon de façon à collecter plein de données, de façon à pouvoir offrir la meilleure expérience touristique pour chaque touriste qui visitera Lyon. Parce qu'on donne les touristes qui visitent peuvent prendre des cartes, et avec ces cartes, s'ils vont dans un musée, clac, ils sont repérés qu'ils sont allés dans le musée. Ils sont allés dans une boutique partenaire, ils sont repérés comme étant allés dans une boutique partenaire. On sait peut-être pas ce qu'ils ont acheté, mais en tout cas, vu le type de boutique, on sait ce qu'on y trouve. Etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une avec les technologies modernes de smart city, de machin comme ça, il y a un quadrillage complet de l'activité. Et cette activité, toutes les activités qui ressortaient éventuellement du spontané, il y a 2-3 ans, Airbnb, par exemple, proposait froidement, parce qu'ils ont peur de rien, ces gens-là, ils proposaient les expériences Airbnb. Et les expériences Airbnb, c'est vous savez faire des crêpes, vous savez, vous connaissez un petit coin sympa dans une ville, inscrivez-vous sur notre site et faites profiter les gens à titre payant de cette expérience Airbnb. Donc des activités qui peuvent être des activités de voisinage ou de connaissances ou de rencontres, ça peut devenir des activités qui peuvent être profitables.
Après, moi, je dirais que, en fait, beaucoup de... En fait, le tourisme, c'est un peu une pieuvre avec plein de tentacules. Et ça touche plein de secteurs, en fait. Des entreprises, on n'aurait pas l'impression qu'elles sont liées au tourisme. En fait, elles le sont, d'une certaine manière. Et par exemple, là, il y a un projet le projet des sublimes routes du Vercors, donc pas très loin de Grenoble en ce moment. Et donc, en fait, là, l'aménagement de nouvelles routes... ou de belvédères, etc. En fait, on peut dire que ça peut être pour des gens qui veulent traverser une vallée, mais en fait, c'est à enjeu touristique. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, on a peu parlé du fait que c'était un aéroport qui allait satisfaire en grande partie des besoins de voyage, en fait, des besoins de partir voyager. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie aéronautique, elle va en poupe, c'est le cas de le dire. Et c'est en grande partie du fait de l'explosion du voyage, des longs séjours, enfin des courts séjours de courte durée surtout, mais loin en fait, lointain. Donc voilà, c'est toutes les infrastructures qui rendent accessibles des endroits qui l'étaient, mais par plus de patience ou par connaissance du terrain. C'est voilà, il y a plein de choses. Google Maps, par exemple, je pense à Google Maps comme ça, mais c'est dévoiler le monde entier à tout le monde, et en fait finalement pour que tout soit accessible et tout soit à portée en fait
et consommable.
Consommable. Ouais.
Et peut-être pour finir sur cette partie du tourisme, avant d'aller plus profondément sur les questions d'aménagement du territoire en seconde partie, revenir sur ce rôle du numérique, de la numérisation, et peut-être qu'est-ce que Airbnb notamment a changé dans ses pratiques touristiques ?
Oui, alors Airbnb, c'est comme beaucoup de choses dont on parle à l'Office de l'Antitourisme, c'est que c'est vu assez positivement par beaucoup de gens. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas si joli que ça. Donc en fait, Airbnb, Blablacar, ça fait partie de ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui l'économie collaborative. Mais en fait, c'est un mode d'échange qui est fondé sur la mise en relation numérique des acteurs économiques. Ce modèle, en fait, il permet d'élargir le domaine de l'offre et de la demande. Donc en fait, c'est des échanges qui auparavant étaient informels ou gratuits, donner sa chambre à un pote ou par connaissance, ou louer à des gens qu'on connaît ou par d'autres moyens, en fait, ça devient marchand. Donc en fait, Airbnb, Blablacar, c'est un peu la continuité du capitalisme et non une rupture. Et en fait, on se rend compte que en fait, c'est un modèle, ces plateformes numériques, qui est extrêmement lucratif et extrêmement concurrentiel. Et c'est pour ça qu'il explose aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, les entreprises comme Airbnb ont très peu de frais, très peu de normes, très peu de salariés. Et donc, c'est un modèle très concurrentiel. Ils ont même pas besoin de faire un travail, vu que c'est les utilisateurs qui font le travail pour eux, finalement. Donc, en fait, on travaille un petit peu pour eux, ils ont des marges très confortables. Et encore une fois, la motivation économique, c'est elle qui prime aussi pour les utilisateurs. C'est-à-dire que les locataires de leur habitation... Il y a des études qui sont sorties là-dessus qui montrent que l'intérêt principal, c'est l'économique, en fait. C'est le fait de pouvoir rapporter des sous. Et donc, en fait, c'est loin de l'image qu'Airbnb donnait au départ, qui était Airbnb, ça voulait dire Air, Bed and Breakfast. Donc, c'était le lit gonflable et le petit déjeuner avec l'habitant, quoi. Aujourd'hui, c'est même pas 5% des offres d'Airbnb. Et il y a une minorité de chambres chez l'habitant. C'est souvent des endroits qu'on loue. Et qui sont chers, enfin quand même. Et puis en fait, avec plein de conséquences, notamment le fait que les propriétaires préfèrent louer en Airbnb quelques semaines pour du tourisme plutôt que de loger des gens à l'année qui veulent vivre sur un territoire, parce que ça leur apporte plus de sous. Donc en fait, je pense qu'aussi Airbnb, ça a pour effet d'augmenter le potentiel lucratif de la propriété privée. Et ça fait en sorte que finalement on peut être plus facilement rentier, quoi.
Ah ben, on le voit totalement à Lyon, là, sur ce week-end de nuit sonore, comme les centres-villes sont remplis d'Airbnb qui font grimper les prix des loyers au détriment des personnes qui veulent y vivre.
Climatique Il ment avec aisance. C'est Pinocchio pathétique.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Et oui, le monde est chaud, on vient d'écouter Tiken Jaffa Kelly.
Et oui, alors du coup, vous en parliez un peu tout à l'heure à travers les Center Park, parce que du coup, les Center Park ben, cristallisent un peu à la fois ces questions touristiques, mais cristallisent aussi des questions d'aménagement du territoire et à quel point ces questions de tourisme peuvent conduire à des questions d'accaparement de terres, d'aménagement du territoire pour le tourisme. Et du coup, sur l'histoire de ces Center Park, est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus, sur la dynamique qu'il y a eu? Et notamment, vous évoquiez qu'il y a eu il y avait trois projets qui ont été tous les trois abandonnés. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que s'il y a des choses à partager là-dessus.
Oh ben, on va partager, alors. Voilà, donc il y a la coordination là, qui s'appelait Center Park... Nina, ni ici ni ailleurs, elle s'est créée effectivement sur trois projets de Center Park, comme l'a déjà dit Manu, celui de Roibon, donc autour de la forêt de Chambaran, à côté du camp, pas très loin du camp militaire de Chambaran aussi, qui est toujours là, lui, à Poligny, dans un coin en pleine forêt, et puis au Rousset, en Saône-et-Loire, à proximité d'une pièce d'eau. Et la caractéristique de Roibon, c'est que les gens de Center Park ont vendu, mais comme ils font tout le temps, ils ont vendu de la taxe professionnelle, ils ont vendu de la fréquentation touristique, donc des bénéfices pour la commune, pour les commerçants, etc., qui sont tous partis billes en tête sur ce projet.
Et l'emploi,
bien sûr, il y a l'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, on est foutu. Et c'est un triptyque qu'on retrouve dans tous les projets d'aménagement touristique. Ça va vous créer. Vous allez être riche, vous allez être encore plus riche, et tout le monde va venir vous voir et tout le monde va vous aimer. Et le problème sur Roibon, c'est que la forêt qui devait être détruite, elle a été construite sur un château d'eau naturel qui alimente une grande partie des rivières jusqu'à la Drôme, aux alentours. Donc, perturber l'eau qu'il y avait là-dedans, enfin qui est sous terre, qui est, en plus ça posait d'énormes problèmes. Donc il y a eu des tas de recours qui ont été faits. Il y a eu l'occupation, c'est-à-dire que le roi bon, c'est un cas un peu parfait. Il y a eu à la fois un combat juridique mené par les associations locales et les associations de protection de la nature, essentiellement France Nature Environnement, et puis PCSCP, qui était l'association citoyenne du coin, et les vilains occupants, canards, petits canards, qui ont occupé le terrain et qui l'ont occupé pendant plusieurs années. Et comme disait Jérémy, il y a eu une intense vie collective, intellectuelle, politique sur cette zone. Et pour Roibon, c'est la conjonction des deux qui a fait que ça a gagné. Nos amis de Center Park, ils ont perdu la cour administrative. Ils sont allés au Conseil d'État qui a renvoyé après auprès de la cour administrative d'appel de Lyon. Et la cour administrative d'appel de Lyon, elle a statué en disant que non, ils rejetaient les décisions qui avaient été prises par la préfecture au titre de la loi sur l'eau et puis de la loi sur les espèces protégées, si je ne me trompe pas. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et à partir de là, quand ça est arrivé, le projet de Roibon a été abandonné parce que ça devenait ingérable pour Pierre et Vacances. En prime, ça devenait compliqué pour eux. Ils étaient mal vus, ils avaient des problèmes de sous, etc. etc. Et sur Poligny, donc dans le Jura, la décision est tombée il y a une petite semaine. Là, la cour d'appel administrative a rejeté le PLU, donc le plan local d'urbanisme, donc qui permettait de modifier l'occupation du sol pour construire le Center Park, et le maire a dit qu'il ne ferait pas appel, et Pierre et Vacances a retiré ses billes. Donc le deuxième, celui-là est mort aussi. Et le troisième, Rousset, c'est un peu plus favorable pour Pierre et Vacances, mais en même temps, ils sont plus en... La région n'en veut plus. Parce que ce qu'il faut voir sur les projets de Center Park, c'est que c'est comme Airbnb, mais sauf que ça se fait sur des territoires. C'est-à-dire que Pierre et Vacances achètent très peu cher des terrains qui sont généralement des terrains agricoles ou de la forêt, les fait passer en zone constructible, se fait financer par les collectivités locales, le département, la région, pour la construction, les aménagements, les voiries, l'adduction d'eau, toutes ces choses-là. Et après, Pierre et Vacances vend à des propriétaires indépendants les chalets que Pierre et Vacances louera tout le long de l'année. C'est-à-dire que Pierre et Vacances prend finalement peu de risques, car l'essentiel de la charge est soit celle des collectivités, soit celle des particuliers qui sont assez cons pour aller acheter un appartement Pierre et Vacances en espérant devenir riche ou améliorer leur fin de mois. Voilà.
Et du coup, là, sur ces luttes, on parle de quelle échelle de temps pour gagner ce genre de lutte
7-8 ans, oui.
Sur l'ensemble, sur les 300 Center Park, c'était un peu les mêmes durées.
Oui, ça s'est déclenché à peu près pareil. Donc, 7-8 ans, oui. Enfin, entre les débuts et les prémices, quand ça a commencé, la mayonnaise a commencé à prendre, surtout du côté droit bon. Oui, 7-8 ans. Oui. Mais on peut perdre. Hein, c'est pas... Là, ça, on a gagné. Enfin, on a gagné.
Et puis, le juridique, c'est une vraie saga en général, avec plein de rebondissements. Il faut revenir dans un an, il y aura une nouvelle décision. Et en fait, ça dure. Mais c'est vrai qu'à Roibon, moi, pour connaître un petit peu, l'occupation, en fait, elle a d'abord été très importante pour arrêter le carnage dans la forêt, en fait, parce qu'ils commençaient déjà à faire les travaux avant même qu'ils aient l'autorisation. Donc, en fait, s'il n'y avait pas eu d'occupation, déjà, il y aurait peut-être eu la totalité de la forêt qui aurait été déjà rasée. Et ensuite, je pense que l'occupation a une importance aussi... en termes de présence sur le territoire et de faire visibiliser un conflit qu'il peut y avoir. Et en fait, du coup, ça a été compliqué pour les habitants de Roibon qui se sont scindés un peu en deux entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Mais du coup, ça soulève une discussion sur ce projet-là, sur qu'est-ce qu'on veut y faire, de ces terres, etc. Alors que peut-être un recours juridique peut se faire... de manière invisible, on va dire, sans que les gens s'en préoccupent trop. Après, c'est vrai qu'aussi, des fois, les liens peuvent être difficiles entre les gens qui occupent le lieu et ceux qui vivent la ville à côté, parce qu'ils ne viennent pas forcément de Roibon, parce qu'ils viennent tous pour des raisons différentes. et la compréhension des fois est difficile. Mais en tout cas, c'est des liens qui sont super intéressants de faire pour politiser le sujet, quoi.
Oui, parce que du coup, j'avais une question par rapport aux personnes qui habitent dans ces localités où il y a ce type de projet-là. Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que c'est... j'imagine, vu que c'est toujours survendu avec de l'emploi, avec ce genre de choses, avec des arguments économiques assez forts, où les gens se disent, bah, en fait, non, nous, on veut ce projet parce que ça va nous faire bouffer, etc. Comment les liens, en fait, comment on arrive à contrer ce type d'argument et à faire comprendre qu'en fait ce projet-là c'est plutôt une nuisance et à lutter avec les gens qui habitent sur place, quoi.
Moi je pense que les arguments de l'opposition sont largement gagnants, enfin très facilement sur les arguments que je trouve assez pauvres et très limités en fait des pros Interparcs, on va dire. Mais le gros problème, la grosse différence dans le rapport de force, je pense, c'est un peu la question des moyens. C'est que en fait, il y a une énorme propagande nationale, en général, favorable à ces projets-là, à la croissance, etc., à l'emploi. Et en fait, c'est jamais vraiment expliqué. Et pareil, le maire de Roibon poussait à fond pour le projet. Il avait son propre, sa propre force de distribution d'un journal pour convaincre les habitants. Mais en général, quand la discussion vient... les gens comprennent en fait déjà quand on gratte un peu quel type d'emploi ça va être. Ah bah la plupart ça va être des contrats de 9 heures par semaine pour des gens qui vont faire le ménage, donc des contrats précaires, des saisonniers, des gens qui vont venir d'ailleurs. Et en fait en creusant on voit bien que c'est des projets qui sont loin d'être tout bénéfice pour le territoire.
Et bien, on a l'impression qu'en tout cas il y a des enjeux de vision du territoire qui sont très différentes entre des enjeux aussi de régions, de favoriser des industriels ou des gros enjeux financiers pour les Center Park et les vrais enjeux des habitants.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus smart.
Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous, il s'agit de la fermeture de cette en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, on chante en résiste.
Du coup, il nous reste 5 minutes, je crois. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aussi que vous puissiez présenter au sein de vos collectifs les différentes actualités. Et puis aussi nous dire comment rejoindre l'office du tourisme. L'office anti-tourisme, le collectif anti-tourisme ou la Nina Lyon.
Ouais, j'aurais dû garder ces choses que j'ai dit au début pour la fin, je pense. Donc nous, en fait, on encourage les gens à créer leur propre office chez eux. Bon, on peut donner un autre nom, voilà. Après, nous, on a un contact sur les revues qu'on distribue un peu partout. On essaie de le distribuer partout où on peut passer en France. Et puis l'actualité, il y a les sublimes routes du Vercors là, dont on parlait. À Grenoble, il y a aussi un gros projet d'un téléphérique qui serait proche de Grenoble, qui relierait le haut de Saint-Martin-de-Vinoux, je crois. Enfin, c'est un des projets énormes. Voilà, cette actualité-là.
Bon. Et nous, pour le collectif Nina Lyon, à la rentrée, on a pas mal de trucs dans les cartons, mais entre autres, on a prévu de faire venir du coup, les Grenoblois de l'Office d'antitourisme pour parler des désastres touristiques. Sinon, ces temps-ci, on est pas mal sur la question de l'industrie de l'armement en région Rhône-Alpes-Auvergne, avec l'Observatoire des armements. On va faire pas mal de choses là-dessus et puis c'est déjà pas mal pour le moment. On a d'autres idées entre autres, il y a un truc qu'on avait un peu en tête, c'était faire venir des gens de Grenoble et de Lille pour parler un peu des mandats d'Europe Écologie Les Verts, enfin, à Lille, on va dire, de l'influence des écolos sur leur ville et ce qu'ils font, ce qui serait intéressant à Lyon, d'avoir un débat comme ça, quoi, un petit échange d'expérience. Et puis voilà, quoi.
Et juste, j'ai oublié deux choses aussi pour l'Office de l'Antitourisme. Récemment, là, on est sur un projet de créer des cartes postales. Donc, on en avait déjà créé, mais là, on va les créer plus jolies, vraiment bon format carte postale. Et en fait, qui fait la non-pub des lieux où on vit. En fait, la face cachée un peu des lieux où on vit, avec humour. Et j'avais autre chose à dire. Ah oui, et puis quelque chose qui plaît beaucoup aux gens en général qu'on rencontre sur les stands, c'est des affiches qu'on a fait à partir de détournements. Donc on prend des images dans les magazines, des phrases qu'on trouve, on découpe, on colle, et à la fin on a un sens totalement différent. Et donc il y en a beaucoup sur nos fanzines. Et ça, en fait, on saisit des arguments forts sur la critique du tourisme assez facilement avec ces affiches qui sont assez drôles et colorées, donc vous pouvez les trouver aussi.
Et un exemple de ce qu'est le tourisme dans un coin perdu des Cévennes, dans un petit village, il y a des habitants se sont aperçus que les militaires étaient en train d'acheter des bâtiments. Et donc c'était des bâtiments de la Légion. À l'origine, c'était pour faire un centre de repos pour les militaires. Et ils se sont aperçus que, en fait, c'était pour créer un parcours de combat pour la Légion. La Légion, bon, elle n'est plus en Corse. Elle a été obligée de quitter un certain nombre de paradis africains où elle trônait. Mais maintenant, ils vont dans les Cévennes pour faire du tourisme. C'est une forme de tourisme un peu particulier. Et en plus, sur ce même coin-là, où il y a la vérole militaire, il y a la peste touristique, parce qu'aussi, on est en train de développer des projets de tourisme vert, on va fabriquer de la marque de territoire, parce que là aussi, c'est quelque chose de très, très important, c'est que le tourisme, mais pas que le tourisme, les villes, les métropoles, les territoires, les lieux-dits, s'ils veulent exister actuellement, il faut que ce soit des marques qui soient vendables. C'est ce qu'on appelle le branding territorial ou le marketing de territoire. Et ce qui fait qu'à Lyon, on a un truc qui s'appelle Only Lyon. Dans les Alpes, donc ils ont Alp is here. Wow, c'est un super, super jeu de mots. Et vous pouvez vous balader partout en France. L'existence d'un coin du territoire, elle est maintenant de plus en plus conditionnée à son attractivité touristique, économique, tout ce qu'on veut. Et pour ça, il faut qu'elle se mette dans le grand jeu du marketing. Donc il y a une publicitarisation, une marketerisation totale des territoires sur lesquels on vit.
Eh bien, la boucle est bouclée. Du coup, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'on est anti-touriste parce qu'on est anti-capitaliste.
C'est pas faux.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu, le collectif Antitourisme et le collectif Nina Lyon. Et on peut vous retrouver, j'imagine, pas très loin de la buvette d'ici 5 minutes si on a envie de discuter avec vous.
On va boire des coups.
Merci.
Merci.
Est-ce qu'on revient, nous, après? Oh là là.
Ben, merci à vous.
Il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que.
Transformons radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques.
industriel et de contrôle social.
Ces derniers temps, ce générique ne résonne plus souvent sur les ondes de Radio Canu. Ça avait pourtant démarré il y a longtemps, par des infos et des brèves paysannes, dans les Canu Infos du vendredi. C'était il y a plus de 10 ans, à l'époque où pas grand monde ici n'avait quelque chose à faire des réalités agricoles et des luttes paysannes. C'était 2 ans après la dernière grève du lait d'ampleur en France.
On a démarré, on avait 140 000 de quota, maintenant on a, 300, on a pratiquement 400 000. Demain, ben, il va falloir produire pratiquement 600 000 pour sortir toujours le même revenu. Donc on en a marre de ce système où il faut toujours produire plus pour rien gagner, quoi.
C'était quand, en l'espace de quelques mois, des friches avaient été occupées, notamment par le réseau Reclaim the Field, dans des perspectives paysannes, à Genève, à Dijon et à Notre-Dame-des-Landes, nom qui n'évoquait à l'époque pas grand-chose à pas grand monde.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio sous les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social. Et dans ce cadre, nous pourrons développer une agriculture paysanne autonome. Une agriculture paysanne autonome ne signifie pas qu'une portion de la population, en s'attelant à la tâche de nourrir les autres habitants, n'en devienne, même volontairement, esclave. Ce devrait être le souci de tous, puisque nous en avons besoin pour vivre.
11 ans, quelques degrés de réchauffement et une pandémie plus tard, l'agriculture industrielle et les rapports sociaux qui la constituent sont toujours là. Même si la défense des terres a pris de l'ampleur depuis, c'est toujours un modèle meurtrier qui produit la majeure partie de l'alimentation ici. L'an dernier, un incendie s'est déclaré dans un bidonville d'Andalousie, a coûté la vie à 2 personnes qui vivaient et travaillaient là-bas. Il y a 2 ans, c'était une saisonnière de 32 ans qui mourait dans sa voiture dans les vergers de la vallée de la Durance. Quelques mois plus tôt, la pandémie faisait découvrir dans les Bouches-du-Rhône, à beaucoup, les conditions d'esclavage et d'enfermement que subissent les salariés dans les fermes du sud de la France. Pas dans des multinationales, dans des fermes familiales, en GAEC, en SCEA. Ces derniers jours avait lieu le procès en appel concernant la mort d'Elio Maldonado, mort de soif au travail il y a justement 11 ans. Comme le dit le CODETRAS, collectif de défense des travailleurs saisonniers, dans son communiqué, janvier 2020, après 2 ans d'enquête, menée avec une mauvaise volonté évidente, et 7 ans de silence plus tard, le verdict est tombé au tribunal de Tarascon. L'agriculteur, Julien Pérez, est relaxé, ou plutôt blanchi. Entre-temps, suite au décès d'Elio, un de ses frères s'est suicidé. Anéanti, la famille décide de faire appel de cette décision. L'audience s'est déroulée le 16 mai 2022 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et le délibéré a été fixé au 13 juin. Le parquet de Tarascon, lui, n'a pas fait appel. L'audience ne déterminera donc que des montants des éventuelles indemnités que pourrait toucher la famille dans ses affaires. L'agriculteur pourra dormir sur ses 2 oreilles. C'est cette agriculture qui, pour l'instant, nourrit la majeure partie de la population. Celle qui fait mourir de soif et de fatigue des salariés détachés. Celle qui loge ses bergers et ses bergères dans des tôles sans eau potable. Celle où Jérôme Laronze, éleveur harcelé par l'administration, est mort abattu par des gendarmes. Celle qui autorise l'industrie du maïs à faire des barrages et des barrages, tandis que Rémi Fraisse mourait d'une grenade de désencerclement. Celle, bien sûr, où en dehors de l'Europe occidentale, les paysans et paysannes, ouvriers et ouvrières agricoles, militants et militantes écologistes et indigènes sont régulièrement harcelés, assassinés, chassés. C'est cette agriculture que nous ne renverserons pas en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, quelle que soit l'atteinte révolutionnaire de cette oasis, mais en transformant radicalement les rapports sociaux.
Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune la levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato, bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli, Dio come tutto vola così in fretta, risparmi e gente tutto così in fretta,
no, non si può più dormire.
dicembre, sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, mettero casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia. Là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale. Sangue di terrore, scendono a valle sul mio paese, chi pagherà le vittime innocenti, chi darà vita a Pinelli il ferroviere. Ieri ho sognato il mio padrone, a una riunione confidenziale, si sono levati tutti il cappello, prima di fare questo macello. Sulla montagna dei martiri nostri, tanto giurando su Gramsci e Matteotti, sull'operaio caduto in cantiere, su tutti i compagni in carcere sepolti, come un vecchio discende il fascismo, su chi ha la vita ad ogni gioventù, e non sentite le grida sulla barricata, la classe operaia lo aspetterà.
Et vous venez d'entendre une chronique réalisée par un membre de Paysans et Paysannes dans la lutte des classes,